Très grosse journée d'actualité. Dans les prochaines minutes, le premier ministre François Legault et le ministre Lacombe vont faire des annonces concernant des places en garderie. On va vous tenir au courant. Et on doit absolument revenir sur ce que tu nous apprenais hier, Joe, et ce qui fait beaucoup jaser depuis hier. C'est à la une du Devoir, entre autres, ce matin. Ça fait la une de pas mal tous les bulletins de nouvelles aujourd'hui. C'est-à-dire les contraintes et les critères pour que les infirmières et infirmiers aient droit aux primes, les fameuses primes de 15 000 $ qui ont été annoncées il y a 2-3 semaines, où on apprend, entre autres, que, par exemple, une infirmière qui prend un sans-solde devra rembourser sa prime, n'aura pas droit à la prime. On parle des retards de 15 minutes également. Bref, je vais vous lire le tweet, parce que là, les syndicats dénoncent ça avec beaucoup de vigueur depuis 24 heures. Je vais vous lire le tweet du ministre Christian Dubé qu'il a publié il y a une heure. Prime aux infirmières. En aucun cas, le personnel en absence de maladie, maternité ou rendez-vous grossesse ne devront rembourser 15 000 $. Les primes seront modulées au prorata du temps travaillé. Notre objectif est d'encourager le temps complet. Le syndicat et le MSSS doivent collaborer. Ça, c'est le ministère Santé et Services sociaux. Est-ce que je comprends, Joe, qu'une infirmière, par exemple, qui est en maladie ou qui a, je ne sais pas, à prendre des congés pour la maternité, va être amputée d'une partie du 15 000?
Écoute, j'ai un peu de misère avec ça. Moi, je pense qu'au-delà d'un tweet, ça mériterait que Christian Dubé ou que quelqu'un fasse le point parce que c'est parti, pour être poli, je dirais en vrille, pour être honnête, je dirais en couille. Cette histoire-là. Là. Déjà que bon, les syndicats avaient pas été très, très, très collaborateurs pour essayer de convaincre leurs membres d'adhérer, de donner une chance aux coureurs. J'entendais des gens dire « Ah oui, mais là, ils demandent à pouvoir prendre des congés sans solde puis pas être pénalisés. » Non, mais c'est parce que là, on parle d'un congé sans solde et d'une obligation de rembourser au complet les sommes qui auraient été données ou d'un 15 minutes de retard sur ton chiffre de travail, puis d'être obligé de ne plus être éligible puis de rembourser les sommes reçues.
On peut.
T'sais, je l'ai lu, là. On l'a reçu le document. Je l'ai lu noir sur blanc. Là.
Les sans-soldes, il y a des gens qui vont dire, ben regarde, on les paye pour être là, là des sans-soldes qui prennent leur maladie ou qui prennent. Mais là, les congés de maladie, ça, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on amputerait la prime pour ça. C'est pas de ta faute quand t'es malade, là. Ou ton enfant est malade, t'as pas. Tu sais, tu peux très bien, Joe, avoir pris la décision de dire, OK, je retourne à temps plein. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes des congés de maladie parce que t'es malade. Moi, je pense que cette personne-là devrait avoir droit à sa prime. Regarde, c'est pas fini cette histoire-là. Et on est très, très heureux de parler avec notre prochain invité qui est infirmier encore pour quelques semaines, quelques mois, qui est aussi BDiste à ses heures, qui connaît très, très bien comment ça fonctionne sur le terrain. On va jaser aussi de tout le contexte, temps supplémentaire obligatoire, puis de tout le contexte général, les primes, etc. Très heureux de le retrouver. Yves Lessard qui est avec nous. Salut Yves!
Hey, salut les gars!
Comment ça va Yves?
Ça va très bien. Je suis dans mon bureau, puis j'ai un gros calendrier devant moi qui a plusieurs X qui sont appliqués sur certaines dates et certains mois. Donc, c'est rendu que il me reste pas beaucoup de X à mettre sur le calendrier. Je quitte depuis 1983, je suis dans le système de santé. Je quitte le 31 décembre sur les terrains des alentours du 13-15 décembre que je quitte la profession. Avec ce qu'on vit présentement, j'ai déjà assez de classe puis assez. J'ai eu une bonne éducation pour dire que je ne ferai pas un finger à mon employeur et à la profession. Je vais m'ennuyer beaucoup, beaucoup de mes consoeurs et confrères de travail qui sont une famille pour moi et des patients que je me suis occupé. Et puis aussi d'essayer de faire aussi, la propagande pour dire que ce métier-là, c'est un des plus beaux métiers au monde. Mais malheureusement, avec ce qu'on vit, là, on est foutrement mal barré.
Je vais vouloir y revenir sur l'aspect du plus beau métier au monde, parce que je pense qu'il faut aussi des fois prendre le temps d'en parler. Mais quand tu dis on est foutrement mal barré, là, toi, tu es sur le terrain, tu le vis depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'en ce moment, c'est pire que jamais? Qu'est-ce qui cloche? C'est quoi les irritants qui font que c'est si pire que ça?
Premièrement, c'est si t'es plus capable de trouver du monde pour travailler de soir et de nuit dans un Tim Hortons Imagine-toi dans un hôpital. Un. Deux, du côté, regarde, des dernières conventions collectives, le salaire, tu vas parler de ça avec les gens, le salaire, oui, c'est une chose, mais c'est les conditions de vie. Donc, on a encore le foutu problème du temps supplémentaire obligé, puis on se le cachera pas. Ça va être là encore pour un bon bout. Mmh. Et ça va être de pire en pire. Le problème aussi n'est pas seulement qu'au Québec. Le nursing, tout ce qui est de profession altruiste, on parle d'enseignants, on parle d'infirmières, on parle de même de médecins, de policiers, c'est en perte de vitesse partout dans le monde. J'ai des amis qui travaillent aux États-Unis, j'ai des amis qui travaillent en Europe, j'ai une amie qui travaille en Suisse, elle me dit que durant un bon bout de temps, c'était le paradis en Suisse. Là, on commence à avoir les contre-coups de la pandémie. Et aussi, c'est la guerre entre, on parle que c'est entre les hôpitaux, mais c'est entre les pays pour avoir cette main-d'œuvre-là. Mmh. Donc, moi, qu'est-ce qui m'encourage, c'est que les jeunes qui arrivent dans cette profession, j'ai travaillé justement avec une fille qui vient juste d'avoir sa licence d'infirmière hier, j'ai travaillé avec elle, je suis en paix pour dire qu'il y a une belle relève. Puis que, écoute, whatever ce qui arrive, les gens sont bien traités. On entend tout le temps de négatif, mais on parle pas beaucoup de ce qui est bon. Mmh. Quand on réanime quelqu'un, puis qu'on réussit à le faire sortir, mettons, de son infarctus, on passera pas dans le Journal de Québec. Ça, c'est sûr.
Ouais,
si t'as le malheur, si t'as quelqu'un qui a travaillé toute sa carrière sans avoir une mauvaise coche, puis malheureusement, et ça peut arriver, et ça m'est arrivé, tu fais une erreur médicale, ben tu vois, écoute, toute ta carrière est tombée. C'est comme un goaler, mettons, qui va goaler 50 games durant une saison, puis qui va comme lâcher le but en supplémentaire de 7e match de la Coupe Stanley, ben de quoi qu'on va parler dans toute sa carrière. Donc, ça me rappelle une phrase dans le film Moneyball, quand mettons le coach qui voulait avoir un nouveau contrat, il parle à Brad Pitt, il dit, écoute, faut que tu me fasses un contrat, l'année passée, j'ai eu tant de victoires. Ouais, mais t'as pas gagné le dernier match.
Ouais, c'est ça. On est jugé là-dessus, là, exactement.
T'es triste, mais c'est le même, c'est la réalité.
C'est ça. Yves, t'as parlé du TSO tantôt, OK, temps supplémentaire obligatoire. Puis là, le ministre, il a fait plusieurs sorties dans les dernières semaines en disant, faut que ça finisse. C'est devenu une méthode de gestion. C'est inacceptable. J'entendais le boss du CHUM l'autre fois dire que le TSO, ça n'existe plus au CHUM. Je sais pas si c'est vrai, je vais pas vérifier. Mais c'est le patron du CHUM qui disait ça à Paul Arcan tantôt. Est-ce que tu penses que le ministre ou que la machine peut réussir à éliminer cette affaire-là? Parce que ça a vraiment, comme tu dis, au-delà des salaires, ça a vraiment l'air d'être ça qui dérange le personnel infirmier.
Ce qui est le fun, tu sais, je pars dans quelques jours. Là, je peux dire ce que je pense.
Oui.
Ça fait des années, ça fait depuis 1983 que je vois ça. Quand je suis arrivé, là, tout le monde était habillé en blanc. Il y avait peut-être une couple de vieilles infirmières qui portaient leur coiffe sur la tête, là. Ça fait que je suis rendu vieux, là. Ça a évolué, puis ça a empiré. La chose qui était particulière, jamais, au grand jamais, c'est rare, j'en ai vu, des gens, des leaders qui vont venir sur le terrain parler aux gens sur un département. J'ai déjà vu des gens qui, à l'urgence, la chef d'équipe, la chef des départements va faire un tour. Moi, je trouve ça exceptionnel. Mais quand je parle de la direction, quand je parle, la seule fois que je vois la direction, c'est quand ils nous emportent un repas à Noël. OK? Les syndicats. J'ai des amis qui sont dans les syndicats, puis moi, je n'irai pas faire leur job. Moi, je leur lève leur chapeau pour donner leur temps là-dessus. Par contre, j'aimerais ça qu'ils viennent faire un tour un peu plus souvent. La seule fois que je les vois durant toute ma carrière, c'était pour emporter des crayons puis des calendriers. Puis quand c'est le temps que c'est de la, comment je pourrais dire, quand c'est le temps de la conversion pour les syndicats, là tu les vois sortir des petites cartes cadeaux. Là.
Maraudage, c'est ça le maraudage.
Exactement.
Ouais.
Donc, il serait temps là que, mettons, j'ai une entreprise, j'ai une shop, c'est moi qui gère ça. Moi, je ne me cacherai pas en arrière d'un bureau puis que je vais demander un subalterne, de troisième, de quatrième pour avoir des informations sur un employé. Je vais aller sur le terrain, je vais prendre un café avec eux autres, je vais leur demander, hey, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez besoin? Moi, je lance un message au ministre. Je lance un message au syndicat. Ça serait pas de faire une commission d'enquête. Puis ça coûterait pas cher. Demandez aux gens d'arriver, les infirmières, les inhalothérapeutes, les médecins qui vont dans une commission d'enquête, on s'en va, on va leur dire ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce que les gens vivent? Qu'est-ce que les gens subissent? Là, c'est pas une domerta. Quand quelqu'un, à chaque fois qu'il y a une infirmière qui se lève debout et qui dénonce ses conditions de travail, ils vont fesser dessus. Que ça soit l'ordre des infirmières, que ça soit même le syndicat, tu sais, ils défendent, mais pas plus que ça. Dernièrement, il y a à peu près même pas un an et demi, il y a une infirmière dans la région de la Beauce. Elle s'est plainte sur le fait qu'elle était toute seule pour 120 patients la nuit. Et moi, je peux valider ça en carrière. J'ai déjà travaillé dans des foyers, j'avais 60-80 personnes à ma charge.
Pas de bon sens.
Je savais avec des infirmières auxiliaires, puis je savais même des préposés, puis des fois qui parlaient ni anglais ni français, qui venaient des agences. Puis il y en a qui se débrouillent très bien avec les agences. Mais qu'est-ce que le problème? C'est que il y a un espace, il y a une distance incroyable entre les gens qui sont sur le terrain, ceux qui subissent, ceux qui supportent ce système-là, puis nos décideurs. Quand je regarde ça, que ce soit de la CAQ, que ce soit le PQ, que ce soit le Parti libéral, je ne sais pas les hauts fonctionnaires où ce qu'ils sont, à quoi qu'ils pensent, ils ont-ils déjà été sur un département? Ils savent-ils la différence entre une infirmière auxiliaire ou une infirmière avec une super infirmière? Moi, ça me fait rire quand ils disent des super infirmières. Écoute, il y a des infirmières qui ont un tech, puis écoute, c'est des Wonder Woman.
Ouais. Ouais.
Puis j'admire les gens qui s'en vont aux études pour se perfectionner. Mais sacrifice, arrêtez de cracher pour ceux qui ont supposément moins d'études. Il y en a qui sont autant efficaces.
Tu parles de, tu sais, bon, de manque de visite sur le terrain, méconnaissance de ce qui se passe sur le terrain. J'ai l'impression que juste en lisant le fameux arrêté ministériel qui vient encadrer les primes de 15 000 $ il y a là un exemple frappant de méconnaissance. Là. J'ai une amie qui est infirmière au bloc opératoire en obstétrique puis qui a fait une publication en disant « Ils comprennent-tu que moi, des fois, je suis de garde la nuit puis je peux être réveillé puis aller à l'hôpital toute la nuit aider à sauver la vie d'un enfant puis le lendemain, j'ai le droit de demander un congé sans solde autorisé parce que je peux pas travailler le lendemain parce que ça fait 24 heures que je suis debout. Puis là, vous êtes en train de me dire que je vais devoir rembourser ma prime si j'ai travaillé toute une nuit. » Puis que je suis pas capable de travailler le lendemain. T'sais, juste ça, il me semble, Yves, c'est comme une illustration de, effectivement, une déconnexion entre la machine et ce qui se passe réellement sur le terrain.
Autre chose. Bon, il y a eu, là, vous avez vu le track de la flic. Je pense que ça vient justement de mon hôpital. Donc, ils ont dressé des grandes lignes sur ces fameuses coquilles-là. Là, va falloir ce qui se parle entre le gouvernement et le syndicat pour dire, là, hey, c'est quoi le délire, là? Y a-t-il un problème de communication? Y a-t-il quelqu'un qui peut tirer la couverture de son côté pour faire un show? Là, le ministre Dubé vient, là, j'ai lu comme vous autres son texto là-dessus.
Ouais.
Là, il faut qu'il fasse un peu un wake-up call, là. Moi, j'en ai l'impression de. J'aimerais ça être Marc Messier comme dans les boys dans la chambre des joueurs pour faire un pep talk, ça. Ça serait peut-être le temps. Là, c'est rendu cacophonique présentement la situation. Un exemple. TSA obligatoire la fin de semaine passée. On a fait une campagne. La FIC a fait une campagne sur le TSO. Bon, on fera pas de TSO en fin de semaine, tu te le quittes. Oui. OK. Là, Jérôme, tu vois mes cartoons une fois de temps en temps avec ma bande dessinée.
Oui.
J'ai fait une infirmière qui regarde un tableau marqué TSO.
Oui.
Elle pogne un efface, enlève le O. Qu'est-ce qui reste? TS. En fin de semaine, sur mon département, on n'était pas loin de 15 à 20 supplémentaires qui étaient déjà organisés. C'est une belle manière de gestion. Oui, OK. T'as pas l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Ça enlève un stress. Par contre, il y a encore des supplémentaires. Si on peut organiser ça, s'il y a des gens qui se donnent pour faire des supplémentaires, pas de problème. Si on est rendu à ça pour notre organisation, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, les gens qui font des supplémentaires à tour de bras, c'est pas des robots, c'est des êtres humains, ils vont à terre.
Ouais.
Moi, je connaissais un de mes amis qui faisait des supplémentaires à tour de bras. Sais-tu comment que ça finit? ça finit avec un double pontage à Laval.
OK, c'est ça. Mais hey, juste là-dessus, Yves, je trouve ça intéressant. Tu sais, tantôt, tu parlais des syndicats. Je veux juste comprendre, être sûr de bien comprendre là-dessus. Autrement dit, est-ce qu'il y a des gens dans le syndicat ou des membres du personnel qui, dans le fond, ce système-là, ils aiment bien ça, là, parce que, tu sais, on a beaucoup parlé aussi des temps partiels et tout ça. Est-ce que, dans le fond, le système qui déplaît à plusieurs et qui en brûle plusieurs profite à d'autres actuellement dans le domaine infirmier?
C'est une très bonne question. Écoute, moi, je suis pour le libre choix. Mon épouse, elle, a fait un 8, okay? OK? Mais, malgré tout, elle se tape au moins 2-3 supplémentaires obligés. Bon. Les gens qui veulent faire du temps partiel, ils veulent être à 7 pour avoir une vie familiale. Moi, je suis d'accord avec ça. Je crois que ce qui est important, c'est de donner la liberté aux gens d'organiser, mettons, leur vie familiale. Moi et mon épouse, on a élevé 3 enfants. On était chanceux, on était bénis par le bon Dieu sur le fait qu'on avait de la famille et des bons voisins pour garder nos enfants entre les chiffres. Parce qu'elle a travaillé le soir, moi je travaillais de nuit. Donc, c'est très problématique du côté de la qualité de vie. Oui. Qui était là avant les infirmières?
Les religieuses, les gardes malades.
Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là 24 heures sur 24 exact. Dans bord.
La fameuse vocation, ça vient de là, Yves.
Quand on exactement. Parle de, moi, il y en a pas, Jérôme. Ouais. Jérôme, il y a une chose, j'aimerais ça. Un jour, j'aimerais ça que je te challenge quelque chose. J'aimerais ça que tu appelles une des religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, une des dernières qui a géré les hôpitaux. Personne n'en parle à eux autres. C'est eux autres qui ont bâti tous nos hôpitaux dans la province ouais. de Québec. C'est eux autres qui ont géré ça. Ouais. Je me demande, il doit y avoir un petit sourire dans le coin où je ne penserais pas. Il y en a qui ont une bonté incroyable. Ils doivent se dire, hey, ils nous ont tassés, puis quelle sorte de messe qu'ils ont fait avec ce que nous avons réalisé. Puis même, ouais. quand tu parles de vocation infirmière, tu vas me trouver vieux jeu. Un policier, as-tu un uniforme?
Oui. oui.
Un pompier, as-tu un uniforme?
Oui.
Ton corps arrière des Patriotes de Nouvelle-Angleterre, as-tu un uniforme?
Numéro 10, puis le tien avec les Eagles aussi, il y a un uniforme.
Numéro 1.
Oui, exact.
Donc, écoute, nous autres, en tant que notre identification côté la profession, la vocation, là, même notre ordre professionnel nous dit, ah, ça n'existe plus la vocation, puis OK, ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui. Seulement qu'au départ, selon notre apparence, c'est rendu qu'on est habillé comme des clowns. Tu t'en vas sur un département, tu regardes, tu sais plus à qui t'as affaire. Tu ne sais pas si t'as affaire à une infirmière, tu ne sais pas si t'as affaire à un médecin. Moi, j'arrive sur le département, des fois, ils me disent, hey, est-ce que vous êtes docteur? Moi, je dis, en tout, oui, je suis gynécologue. Tu sais, c'est que, moi, mon rêve, c'est que quelqu'un arrive. Moi, je donne quand même un peu de crédit à Christian Dubé. Il a fait, ou mettons, c'est le gouvernement, ils ont fait pas mal de choses. On sait, durant la dernière pandémie, ils ont pris des décisions qui ont été difficiles, mais ils ont tenu le cap. Mais c'était pas parfait. Ça, il faut le donner, là. C'est pas parfait. Mais quand je vois qu'est-ce qui s'est passé avec le PQ, avec le Parti libéral, je sais pas pourquoi c'est pas cette art, mais le genre de manière qui nous regarde de haut. Nos gens, en majorité, c'est des femmes. On dirait qu'on est encore des petites servantes de Jésus-Marie ou des petites bonnes.
C'est ça.
Il y en a qui pensent encore à ça aujourd'hui.
Ben moi, je te
disais tantôt.
Mais c'est pour ça que je suis tanné de l'extérieur d'entendre parler de vocation. C'est que j'ai l'impression que des fois, ça fait référence à ça. Le passé religieux, les petites bonnes, les religieux.
Ouais, mais
ça, moi, je suis tanné. Je pense l'ordre a raison là-dessus.
Oui, mais il y a une chose. Moi, je sais c'est quoi ça veut dire vocation. La vocation, c'est un sentiment d'appartenance. C'est un sentiment de fierté. C'est comme moi, ouais. comme je te dis, si demain matin, Alain Vigneault m'appelle, Yves, tu vas gauler demain pour les Flyers. Ça fait, moi, je vais avoir la fierté d'endosser le chandail des Flyers sur le dos.
Je comprends ce que tu veux dire.
Moi, j'aurais la fierté d'endosser mon uniforme. Un uniforme, quand tu regardes en exemple, quand tu regardes en Angleterre, il y a un uniforme pour tous les hôpitaux. Une seule, puis là, t'es identifié. Puis quand les filles arrivent dans la profession, c'est comme une fierté. Je ne sais pas, c'est comme tu vas endosser, tu vas prendre un costume de super-héros.
Sentiment d'appartenance.
Exactement.
Le temps presse, on va être obligé de se laisser bientôt, mais je sais que Jérôme n'aime pas le terme vocation, mais moi, je pense au terme valorisation. Tu sais, au début de l'entrevue, tu as dit c'est le plus beau métier du monde. Puis, je fais un peu le parallèle avec l'enseignement. On a un chroniqueur, P.O. Cloutier, à qui on parle régulièrement. Puis, à un moment donné, j'ai dit à P.O., il n'y a personne qui parle de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui est emballant dans l'enseignement. Fait qu'à chaque fois qu'on va te parler à la fin, on va donner des exemples qui sont le fun, qui donnent le goût, tu sais... Je comprends qu'il y a des problèmes, il y a des travers, il faut les corriger, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi valoriser, de parler des aspects qui font que les infirmières, les infirmiers sont capables de s'accomplir, d'aimer leur job aussi, là?
J'ai formé des jeunes étudiantes soit à l'université ou au cégep. Je vois cette flamme-là dans les yeux. Il y a des personnes, rien que le fait que je vois l'ombrage d'une fille, ça m'écoute, elle se reconnaît. C'est de l'ombrage d'une fille sur une fenêtre qui est assise puis qui écoute un patient en détresse. Ça démontre toute cette noblesse de ce travail-là. Cette semaine, je peux pas trop en parler, mais j'ai rencontré une personne extraordinaire qui se bat contre une maladie, que ça va se terminer prochainement. Puis elle m'a demandé, elle dit, écoute, je t'engagerai pour mes derniers moments. Moi, j'ai dit, je m'excuse, c'est terminé pour moi. J'aimerais bien beaucoup, j'aimerais ça. Je dis, écoute, ça sera un honneur, mais c'est terminé. Je suis obligé de dire non. Je finis ma paperasse, puis toute la quête, d'un coup, cette personne-là sort du département en chaise roulante avec sa famille. Cette personne, malgré la maladie, elle était tellement belle. Elle avait comme un fichu sur la tête. Elle était amaigrie, mais très belle femme. Elle s'en vient, puis elle dit, Yves, viens ici. Elle m'approche. Elle ouvre ses bras, puis elle me fait un câlin. Elle dit, je t'aime. Je vais penser à toi. T'as fait du beau travail. Puis je suis fier de toi. Puis elle m'a donné un bec sur mon coco. Puis, écoute, je t'en parle, là. Puis ça, là, tout ce qu'on a vécu les dernières semaines, je m'en contrefiche, comme on dit. Ça, c'est ça, la valorisation, puis de reconnaître qu'on a fait quelque chose de bon. Puis je le répète encore, ce serait le temps que nos dirigeants, que ce soit du côté du gouvernement, de nos supérieurs et de nos syndicats, et particulièrement aussi de l'ordre professionnel, de notre ordre professionnel, de venir voir les gens sur le terrain. Hey, on vous mangera pas. On va prendre un café, chose avec vous autres. Et là, quand on parle aux gens qui sont en détresse, on ne regarde pas la crise, on regarde des solutions pour s'en sortir.
Yves, c'est toujours un grand plaisir de te parler. D'après moi, tu vas avoir du matériel pour tes bandes dessinées. On s'en reparle bientôt si ça te tente.
Écoute, il n'y a pas de problème. Puis, Jérôme, une chose dans mon bucket list, on monte à Boston.
Ouais, une petite game, un doublé, Bruins Flyers, puis après ça, Pat Seagulls, mon Yves. On pourrait faire
pas
ça.
Pas de problème, ça me fait plaisir, puis j'ai hâte de voir ton kit sur la glace.
Yes, salut Yves, merci de nous avoir parlé.
Take care, bye-bye.
Bye. Yves Lessard, infirmier qui BDS également, vous avez peut-être déjà vu ses bandes dessinées inspirées justement du milieu de la santé. Écoute, le temps file, mais tu sais, on va peut-être y reparler, tu sais, la vaccination obligatoire, là. Le 15 novembre, là, j'ai hâte de voir aussi comment on va gérer ça. Est-ce que le ministre va reculer une autre fois pour pas mettre à mal le système de santé? Beaucoup, beaucoup de choses encore à venir dans les prochaines semaines sur les difficultés actuelles, les difficultés majeures du système de santé au Québec.